chaque année, en fait, on observe une augmentation de la teneur de CO2 dans l'atmosphère de l'ordre de entre 2 et 3 ppm, donc parties par million. Et maintenant, la concentration a atteint un seuil, on peut dire, un peu symbolique de 400 ppm. En fait, plusieurs stations, des stations individuelles, surtout dans les régions polaires, ont observé, en fait, même il y a plusieurs années, des moyennes mensuelles qui a dépassé les 400 ppm. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que ces 400 ppm qu'on donne maintenant, c'est pour une année entière et sur l'échelle globale. Donc c'est une moyenne sur toute la planète et sur toute l'année de 2015. Et aussi, ce que nous disons dans ce rapport, c'est que probablement, ça va prendre plusieurs générations avant qu'on voit la teneur de CO2 revenir en dessous de 400 ppm.
Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'il y a eu cette hausse, en tout cas ce dépassement du seuil de 400 ppm? Est-ce que c'est parce qu'on a plus brûlé de forêts, plus consommé du fossile, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont entrés en jeu?
La plus grande contribution, c'est le fait qu'on brûle les carburants, donc le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Quand on brûle ces carburants-là, ça donne comme émission de CO2. En plus, il y a aussi la déforestation, donc on brûle la forêt pour faire des champs agricoles.
Est-ce que ça veut dire qu'on le fait plus qu'avant?
Et en fait, si chaque année on émet une certaine quantité de CO2, à peu près la moitié de ça va rester dans l'atmosphère pendant des milliers d'années. Donc ça veut dire que toutes les émissions qu'on fait s'accumulent dans l'atmosphère. Donc disons, il peut y avoir des années où les émissions sont un peu plus faibles que l'année précédente. Mais quand même, la concentration dans l'atmosphère va augmenter.
Est-ce que nous, physiquement, on peut se rendre compte qu'il y a de plus en plus de CO2 qui s'accumule?
Quand on respire l'air comme d'habitude, on ne se rend pas compte qu'il y a plus de CO2. Mais c'est bien connu que trop de CO2 dans l'air qu'on respire, ça peut en fait avoir un effet asphyxiant dans une petite pièce avec beaucoup de monde. Et quand tout le monde respire, donc on peut avoir des effets en fait. On a un peu de sommeil, mais il faut beaucoup plus que 400 ppm pour se rendre compte de ça. Donc 400 ppm, c'est pas toxique quoi. Le problème, c'est que ces gaz, ça piège le rayonnement infrarouge que la Terre émet vers l'espace et renvoie cette chaleur vers la surface. Et donc ça chauffe la planète, ça chauffe la Terre.
Est-ce qu'il y a un moyen de dépolluer l'atmosphère et même les océans, je crois, de ces molécules?
Oui, en fait, technologiquement, c'est absolument faisable. Technologiquement, on peut s'imaginer un grand appareil qu'on peut déployer un peu partout dans le monde, qui respire l'air et qui enlève le CO2. Mais c'est une question de coût. Aussi, quand il s'agit des émissions qu'on fait tous les jours, comme les voitures, les centrales à charbon, les centrales électriques à gaz, etc., la technologie pour se débarrasser de tout ça, ça existe. Il existe des panneaux solaires, il existe des éoliennes, il y a des centrales hydroélectriques, etc. Donc c'est plutôt une question économique, en fait, ou aussi une question de volonté.
Une volonté politique?
Ça, c'est une question philosophique, si vous voulez. C'est qui le responsable? Est-ce que ce sont les gouvernements et les gérants et les politiques? Ou est-ce que c'est chaque citoyen? Où est-ce que se trouve la responsabilité? Je pense que c'est un peu partagé, en fait. Aussi, chaque personne peut faire quelque chose pour réduire les émissions de CO2. Tant que ce n'est pas criminel de prendre sa voiture, les gens vont continuer à conduire et donc émettre le CO2. Donc il faut aussi que le gouvernement fasse quelque chose pour limiter les émissions.
On sait bien que la question du pétrole, c'est une question géopolitique. Il y a aussi énormément de lobby de la part des entreprises pour qu'on continue à utiliser l'or noir ou dans certains pays le charbon, etc. Est-ce qu'il y a aussi un lobby qui œuvre pour le compte d'entreprises ou de groupes sur les politiques pour justement créer cette grande machine qui pourrait permettre de dépolluer l'air ou pour travailler plus sur les énergies renouvelables? Est-ce qu'il y a un rapport de force qui pourrait se jouer là?
Oui, c'est une bonne question en fait. Il existe des groupements qui essayent de convaincre les gouvernements de faire plus. Il y a un groupement, je pense, qui s'appelle R40, et c'est une association de municipalités, de différentes compagnies, etc. Et les partenaires dans cette association, ils veulent accélérer les mesures qu'on doit prendre pour diminuer les émissions de CO2. Donc il y a des mouvements qui existent. Mais pour que ce soit vraiment efficace, il faut aussi que les gouvernements participent à ça et qu'il faut mettre en œuvre des mesures qui sont efficaces.
Est-ce que vous pensez qu'à terme, des gouvernements auront le courage ou n'auront plus le choix et devront criminaliser, par exemple, faire d'un délit le fait de prendre sa voiture pour aller au travail et se projettent justement sur ce genre de techniques qui permettent de dépolluer?
Je ne pense pas qu'on arrive à ce point-là où on va criminaliser. C'est moi qui ai dit ça tout à l'heure. Mais si on pouvait encourager les gens à acheter une voiture électrique et si cette électricité a été produite par une centrale propre, disons, qui n'émet pas le CO2. Là, bien sûr, on peut gagner beaucoup. Un exemple, c'est la Norvège, où il y a une grosse taxe sur les voitures. Donc, une voiture en Norvège, typiquement, coûte deux fois plus cher qu'en France, parce qu'il y a une taxe de 100%. Mais sur les voitures électriques, il n'y a pas cette taxe. Donc, ça veut dire qu'une voiture électrique en Norvège devient vraiment très, très compétitive. Maintenant, il y a pas mal de gens qui achètent des voitures électriques. Et comme en Norvège, toute l'électricité est produite par des centrales hydroélectriques, ça veut dire que ça diminue vraiment les émissions de CO2. Et donc si plus de gens pouvaient donc se débarrasser de sa voiture à essence ou sa voiture à diesel et la remplacer avec une voiture électrique. Je pense aussi en France, par exemple, où beaucoup de l'électricité est produite par des centrales nucléaires. Ça pouvait en fait diminuer au niveau national les émissions de CO2.
On va bientôt au Maroc vivre la COP22. Qu'est-ce que vous pensez déjà de cet accord de Paris qui a été signé à la COP21 et là qui vient d'entrer en vigueur?
La COP21, c'était un bon pas dans la bonne direction, mais juste avant la COP de l'année dernière, chaque pays ont envoyé des chiffres ou des promesses combien ils pensent réduire les émissions dans l'avenir, d'ici 2030. Ce n'est pas suffisant pour atteindre ce qu'on avait promis, en fait, le 1,5 ou le 2 degrés de réchauffement avant la fin de ce siècle. Si on continue selon ces promesses, la température avant l'an 2100 a augmenté de l'ordre de 2,7 ou même 3 degrés. Un premier accord, c'est un bon pas, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut faire plus. C'est toujours un peu douloureux, en fait, de mettre en œuvre des mesures drastiques. Mais il faut aussi que, je pense, les politiques commencent à s'habituer à cette pensée de faire quelque chose. Et il commence à devenir un peu urgent, en fait. Donc il faut vraiment commencer à faire quelque chose, oui.